tous les quelques lampions encore vaillants. Je sais pas s'il y a un rapport, dit-il enfin, mais il y a pas mal d'Angolais qui ont passé le fleuve ces derniers temps. De jeunes gars qui cherchent du boulot. Des pisteurs? Il y a de nouveaux trafiquants dans le coin? Faut croire. Qui? Si je savais, je t'aurais demandé un petit billet. Qui t'a parlé de trafiquants? La rumeur, répondit Cassita. Rien que la rumeur. Ça vous empêche pas de me payer un coup. Tu pourrais te renseigner? Insista Seth. Bah, qu'est-ce que je ferais pas pour les Rangers? Seth lui offrit sa bière. Solana était déjà dehors. Ils ne remarquèrent pas l'unijambiste qui observait la scène depuis une table voisine. Chapitre 6. Les sécheresses se succédant dans les années 1980, Cassita avait vu son bétail mourir avant de chasser des animaux protégés pour survivre. Comme en Afrique du Sud, la répression anti-braco battait alors son plein en Namibie, sans faire baisser les courbes. Un père éleveur arrêté laissait une famille affamée qui se mettait alors à chasser illégalement, un cercle vicieux qui ne faisait que remplir les prisons de pauvres bougres. Le gouvernement avait décidé de convertir les villageois en rangers, ce qui s'avéra une bonne façon de réduire le braconnage. Outre le prestige de l'uniforme dans les communautés, les hommes du désert étaient doués pour répertorier et protéger la faune sur les territoires qu'ils connaissaient mieux que personne. Cassita était devenu informateur pour le compte des rangers à sa sortie de prison, signalant les individus suspects dont on pistait alors le téléphone. Beaucoup se faisaient passer pour des touristes et récupéraient les cornes ou les écailles de pangolins à l'hôtel où ils séjournaient, comme l'Avani Casino de Windhoek. Le temps d'arriver sur la scène de crime, les faux touristes étaient déjà repartis en avion avec leur butin. Enfin, les rangers payant chacun faux fiable à bon prix, Cassita avait pu se constituer un nouveau troupeau et faire vivre légalement sa famille 30 ans durant. Le réchauffement climatique, plus terrible dans le sud, et une santé précaire l'avaient poussé à prendre une retraite forcée. Les enfants étaient partis comme une volée de moineaux, le condamnant à l'oisiveté de la ville où le vice et les chibins l'abattaient plus que sa vieille femme. Les rues de Rundu étaient désertes quand Cassita quitta le bar aux lampions fatigués. Il claudiqua sous les étoiles, zigzaga vers les stations-service à la sortie de la ville, près desquelles il avait élu domicile. Le herrero était un peu ivre, mais pas tellement plus que d'habitude, comme il disait à Meke, son épouse, probablement couchée à l'heure où les ombres glissaient sous ses pas. Il ne pouvait pas vraiment lui en vouloir de l'avoir mis dehors jusqu'à nouvel ordre. Meke l'avait prévenu, excédé par ses écarts, comme si le désœuvrement l'amusait. Mal aux genoux, au dos, à la vie qu'il avait éreintée pour pas grand-chose. Cassita aurait aimé retrouver son lit, y plonger dans un sommeil troué de rêves alcoolisés, sa femme périscope surveillant la ligne de flottaison du navire amiral, au lieu de quoi il marchait vers la tente qu'il avait plantée près de la station Shell, où sa déroute le consignait depuis l'ultimatum de Meke. 2 kilomètres encore. À ce rythme, il y serait au lever du jour. Cassita entendit le bruit de pas désaccordés dans son dos, une présence qui se rapprochait. « Alors, papy, on se promène ?» Un unijambiste lui faisait face, plein d'un mauvais sourire dans la pénombre de la rue. Cassita l'avait croisé au Chibin plus tôt dans la soirée, un trentenaire à la peau grêlée comme ceux qui n'ont pas eu une vie facile, un inconnu dont le vieil homme ne s'était pas méfié. Il aurait dû. Car les clopés n'étaient pas seuls. Chapitre 7. L'Occident désignait comme nature des territoires inertes ou à exploiter massivement, sanctuarisait quelque part que voué à la récréation, à la performance sportive ou au ressourcement spirituel. Jamais il n'était question d'y habiter. En Afrique, les autochtones étaient même sommés de quitter leurs terres au nom de la préservation exclusive d'animaux sauvages, ceux-là même que l'Occident avait majoritairement exterminés. Un nouveau colonialisme vert. Les aides financières liées à la bonne gouvernance des parcs nationaux poussaient les populations locales à migrer, réfugiés écologiques bientôt incapables de s'intégrer.